Il est 8h, bon dimanche sur Europe 1, la suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end. Dans un instant à peine, vous retrouvez bien sûr l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin maître Samia Maktouf, avocate de 42 parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. Alors je rappelle, le verdict est attendu le 29 juin prochain. D'abord, les principaux titres de l'actualité, c'est un jour de vote en ce dimanche 12 juin partout. En France, premier tour des élections législatives, près de 48 millions de Français appelés aux urnes pour élire leurs 577 députés. Les bureaux de vote ouvrent à l'instant. Toute la question maintenant est de savoir si la participation sera au rendez-vous. Une interview exclusive pour CNews dans la matinale week-end. Maître Patrick Usan, l'avocat de la famille d'Emma, cette jeune fille de 13 ans, assassinée par son petit ami de 14 ans dans la nuit de mercredi à jeudi, s'est confiée à nous. La famille est anéantie, nous a-t-il dit. Si Emma a échappé à la vigilance de ses parents, c'est à leur insu. Le suspect a avoué et a été écroué vendredi pour homicide volontaire. Et puis Volodymyr Zelensky veut sortir de la zone grise, comme il l'appelle, et plaide pour une vraie candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Ursula von der Leyen assure que la Commission européenne donnera son avis la semaine prochaine, mais les 27 sont très divisés. Tout de suite, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous et bon dimanche. Maître Sonier, Samia Maktouf, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Chaque jour, vous avez suivi le si long procès de 9 mois au nom, en effet, des 42 parties civiles. À partir de demain et pendant 15 jours, ce sera le temps de la défense, puis le verdict. La cour qui va trancher compte 3 magistrats professionnels. Est-ce que c'est mieux qu'un jury populaire ?
C'est l'ensemble de la cour est composée par des magistrats professionnels. Bien entendu, oui, compte tenu de la gravité des faits, il était très important, et c'est prévu en matière de terrorisme, parce que ces magistrats professionnels connaissent le dossier, ont l'expertise et l'expérience pour juger, dire le droit dans le respect de nos règles procédurales.
Les 3 du parquet national antiterroriste ont réussi, selon mes confrères, comme ils disent, un morceau de bravoure judiciaire. C'est pourquoi j'ai envie de les citer. Camille Entier, Nicolas Braconnier, Nicolas Lebris. 16 heures de réquisitoire, exemplaire, implacable, à la fois une référence et en même temps une performance.
Un réquisitoire à 3 mains exceptionnel, dense, étayé, je dirais même à pédagogique, puisqu'il a permis d'expliquer la gravité des faits et les peines requises. C'est un réquisitoire, pour reprendre les termes de Madame l'avocate générale, s'agissant d'un procès hors norme, d'un procès exemplaire. Ce procès est quand même resté un procès normal, puisque l'ensemble des règles de procédure, le respect du contradictoire, le respect et la garantie des droits de la défense, ce qui fait un procès équitable. Tout cela, toutes les procédures ont été respectées.
Les accusés ont été bien défendus ou vont être bien défendus à tout moment par leurs avocats.
Les accusés ont eu la chance d'avoir de bons avocats qui les ont bien défendus, qui vont plaider à partir de demain. Et ça, c'est la grandeur de notre état de droit.
Oui, la République et les avocats, il faut peut-être le dire pour être clair, ne jugent pas la pratique religieuse et pas l'islam.
Tout à fait. Et c'est tout le dilemme et c'est toute l'importance qui a d'ailleurs été mise en valeur par le réquisitoire. Ce n'était pas le procès de l'islam, c'était le procès d'une pratique prétendument religieuse, d'une idéologie, de l'étendard d'un salafisme qui veut s'insérer dans notre vie, changer notre mode de vie à l'encontre de l'état de droit.
Maître Samia Maktouf, vous êtes avocat franco-tunisien. Pourquoi vous avez commencé votre plaidoirie en arabe ?
En fait, je voulais expliquer le contexte et le monde idéal dans lequel idéal pour ces accusés. Je voulais que ces magistrats professionnels sachent que, à ma place, le jour où je plaidais, il était inconcevable qu'une femme puisse porter la voix de ses victimes. Il était inconcevable qu'une femme puisse être avocate. Et combien même voilée, j'aurais été contrainte de respecter des préceptes pour eux religieux obligatoires.
C'est-à-dire que pour eux, le pire, c'est ce qu'ils ont vu. une femme qui plaide, qui les interroge et qui en même temps cherche à condamner l'idéologie qu'ils représentent.
Le diable pour eux, bien sûr, est dans la femme, diable. Il est dans tout ce que représente notre société laïque, notre république.
Vous sentiez contre vous la haine des regards dans ce silence glacial sans doute de la cour?
En fait, il ne pouvait pas y avoir d'échange complice avec des terroristes, avec des personnes, bien que l'ensemble, et ça a été expliqué d'ailleurs dans le réquisitoire, dans ce puzzle, les rôles étaient différents. Les rôles endossés n'étaient pas les mêmes par l'ensemble des personnes poursuivies et jugées. Mais il y avait cette haine à l'ensemble, en fait, à l'égard même de la cour, à l'égard de toutes les personnes qui représentaient et qui étaient présentes, de l'ensemble des parties présentes au procès.
Justement, Maître Maktouf, est-ce qu'il est vrai que la plupart des avocats étaient impressionnés, presque intimidés dans cette cour ?
Intimidé par la justice. La justice n'intimide pas, la justice se respecte.
Elle
rassure. Justement, ce réquisitoire nous a permis de rappeler l'importance de l'état de droit par les propos et les peines requises.
Vous avez insisté pour avoir une audition des experts. Messieurs Gilles Kepel, Rougier, Moucheron, et pour la présentation d'images.
Oui, aussi.
Oui, et pour la présentation d'images d'horreur de ces crimes de masse. En quoi c'était nécessaire?
Écoutez, il me semblait que la radicalisation n'avait pas eu droit de cité dans ce procès. Ça a été évité. Vous savez, lorsque les accusés se lèvent et se considèrent non radicalisés, je parle de certains d'entre eux, bien entendu, dont Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et autres, qui se réclament combattants de l'État
et qui n'ont pas changé.
Qui se considèrent non radicalisés. Je considérais que c'était très important qu'on explique à la Cour la radicalisation, que c'est très important que cet outil politique, ce développement de l'islam en vue c'est pour répondre à la terreur, c'était très important de le comprendre et de le faire expliquer.
Ils sont déjà radicalisés en prison. Est-ce que c'est vrai qu'ils reçoivent des livres à la gloire de Daesh, de la charia, du djihadisme en prison et librement?
Alors, vous me permettez de revenir sur une partie de ma plaidoirie où je m'étais insurgée contre justement l'entrée dans nos prisons de ces livres, l'entrée de la radicalisation, alors que nous sommes dans une politique de lutte contre la radicalisation, parce que ces livres ont leurs mains sans des armes. Et je m'étais insurgée au nom des victimes, parce que c'était une atteinte à la mémoire des victimes que je représente, et l'ensemble des victimes d'ailleurs.
Maître Maktouf, vous avez dénoncé la propagande islamiste qui est partout. Et elle est apparue dans un lieu inhabituel, à Cannes, au moment du festival et autour du festival de Cannes. Pourquoi ?
Écoutez, je trouve, et permettez-moi d'être très 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 direct, c'était extrêmement... Enfin, en tout cas, ça m'a scandalisée. C'était scandaleux qu'on déroule le tapis rouge à ce salafisme religieux, que en la personne de Diams, qui n'est pas une personne anonyme, c'est une idole pour les jeunes. C'est une personnalité connue.
L'ex-rappeuse Diams, elle était voilée, elle racontait sa conversion.
Et on ne peut pas ériger le fanatisme religieux en exemple, parce que rien n'est dit que ces jeunes qui la suivent comme une idole ne suivent pas son exemple. On ne peut pas ouvrir les portes de nos arts et de notre culture à ce prosélytisme qui ne dit pas son nom. Donc, les femmes et les hommes qui ont applaudi ce documentaire au Festival de Cannes, j'espère qu'elles auront... qu'ils auront une pensée pour les femmes afghanes qui se battent tous les jours. Vous savez, lorsque moi je regarde dans cette interview une femme dont on ne voit que le contour du visage, moi ça me rappelle l'uniforme porté par les femmes de Daesh. Ça me choque, c'est terrible.
Mais si c'est leur liberté?
La liberté de conscience. Alors, elle parle, Diams parle d'une quête spirituelle. Une quête spirituelle se fait en dehors d'un cadre, ne se fait pas avec une exhibition telle, se fait dans une quête spirituelle intime et pas dans une propagande où des jeunes, peut-être en à la recherche de quelque chose, pourraient tomber dans ce salafisme, ce piège. Cette radicalité qui, pour Diams, est un choix. Certes, c'est son choix, mais il ne faut pas qu'elle oublie que c'est une idole pour ces jeunes.
Oui,
ces
et en même temps, d'où vient le choix? Parce qu'elle sait qu'elle est une idole. Dans Le Point, l'écrivain Kamel Daoud, qui est d'Oran, il avoue que le film Salam, avec Diams, l'a mis mal à l'aise, je suppose, comme vous. Les islamistes, il paraît qu'ils étaient ravis et applaudis à Cannes.
Bien
c'est
sûr,
quand même un peu drôle.
Bien sûr. C'est pour ça que je suis choquée, parce que ça ne pouvait que les ravivre, parce que c'est la mise en valeur et c'est l'exécution même de la propagande.
D'accord,
salafiste.
Mais il est interdit. Il est
c'est
imaginé d'interdire.
C'est ça, le salafisme religieux. On nous demande de faire attention. On demande, depuis le procès de Merah, Charlie Hebdo, d'être vigilant, de ne pas être dupe. Mais quand on déroule ce tapis rouge au salafisme religieux, nous sommes dupes et nous sommes complices.
Oui, mais
nous sommes complices.
Au nom de la liberté, on ne peut pas interdire le film.
La liberté de conscience est garantie par notre Constitution, et je ne peux que m'en réjouir, mais la liberté de conscience ne consiste pas à faire du prosélytisme qui n'en dit pas son nom.
Est-ce que vous prévoyez des peines sévères, plus ou moins sévères, pour Salah Abdeslam et ses principaux complices, eux-mêmes des terroristes assassins, ou comme l'ont dit les trois du parquet antiterroriste, ce sont des valets de la terreur. Les donneurs d'ordre ne sont pas là.
C'est des peines justes que les victimes attendent. Les victimes qui étaient d'une dignité exemplaire. Les victimes dont la douleur a été ravivée par ce procès. Des victimes qui n'ont malheureusement pas eu des réponses à tout. Parce que la vérité, elle est restée dans le box. Elle est restée dans le box avec ces accusés qui, en se faisant prévaloir du droit au silence, qui certes est un droit que je respecte, que nous respectons tous, mais pour eux, ça a été un outil pervers pour se défendre et pour éviter que la vérité éclate.
Mais est-ce que ça a apaisé un peu la douleur des familles des victimes?
Que ce procès se tienne, c'est très important pour notre démocratie, pour notre état de droit, ne serait-ce que pour montrer que nous sommes capables d'offrir un procès équitable et non de sombrer dans les ténèbres comme eux veulent nous attirer.
La justice a fait, Maître Maktouf, des efforts d'impartialité au nom du droit. Mais les trois dont on a parlé tout à l'heure du parquet savent, ils l'ont dit, que la prison ne sert à rien. Ils disent: nous sommes sans illusion sur ce que représente le temps de prison. Et vous dites que la justice a bien fonctionné. Mais quand, avec des efforts, comme vous, on a plongé ses yeux dans le regard du crime, qu'est-ce qu'on éprouve?
On recherchait l'humain. Malheureusement, l'humain était absent. Sauf que oui, bien sûr qu'on a jugé des êtres humains, on n'a pas jugé des animaux. C'est des êtres humains.
Mais qu'est-ce que vous avez éprouvé à les regarder, à les entendre? Et à sentir leur silence et parfois leur haine.
Je n'ai pas vu d'empathie. Il y avait une absence totale. Ce n'était pas leur procès. Ils étaient complètement détachés. Et c'est ça le danger de cette idéologie salafiste, idéologie qui aime la mort, qui veut répandre la mort partout.
Quelle leçon il faudra tirer de ce long procès de 9 mois?
Il faudrait en tirer plusieurs. D'abord connaître ce salafisme et éviter qu'il rentre dans nos foyers. Éviter que des institutions puissent ouvrir leurs portes à ce salafisme qui va nous ranger si on ne fait pas attention, si on ne ferme pas les portes. Il faut être vigilant.
C'est-à-dire l'opinion publique doit écouter et être, comme vous dites, vigilante. Mais est-ce que vous-même, les avocats, vous vous sentez après un tel procès un peu différente?
On se sent les mêmes, mais différents et grandis par une expérience du droit, une expérience exceptionnel, fantastique, de l'exercice de l'état de droit et de la démocratie.
Et vous avez le sentiment que la justice a joué son rôle contre ce qui est l'insécurité criminelle de haut niveau, tel que vous l'avez vu.
Tout à fait, bien sûr. Lorsqu'on voit que le procès a été équitable, que les garanties des droits de la défense ont été respectées, qu'on a donné la parole. On a donné la parole.
Est-ce que ça réduira ou réduirait la tentation du terrorisme?
Non, malheureusement, non. C'est pour ça qu'il faut continuer à rester vigilant et il faut pas jouer avec le diable. Et le prosélytisme est présent, il peut frapper à nos portes, il ne faut pas le laisser rentrer parce que c'est contraire à la sphère républicaine, à la laïcité. On se bat pour cela. Il y a des femmes qui se battent pour que ce voile ne leur soit pas imposé, pour que cet uniforme que j'ai vu au Festival de Cannes, un des festivals les plus prestigieux du monde, on ne pouvait pas déroulé ce tapis rouge.
Demain, reprise du procès. Le procès est filmé pour l'histoire, accessible dans 50 ans et pour les chercheurs, peut-être avant. Merci, Samia Maktouf,
merci à vous.
Avocate au procès long qui va reprendre demain. Merci d'être venue. Bonne journée.
Merci à vous, Jean-Pierre Alcabache, et merci à votre invité, maître Samia Maktouf. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche 12 juin. En bref, c'est avec Arthur Muriot.
Europe 1.
Alors qu'en métropole, les bureaux de vote ont ouvert, pour les Outre-mer, leur ouverture, c'était hier. Les électeurs de ce département ont déjà voté. Les habitants de la circonscription de Saint-Pierre et Miquelon ont été les premiers à se rendre aux urnes, suivis quelques heures plus tard par la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'Ukraine, bientôt fixée sur son entrée au sein de l'Union européenne, c'est en tout cas ce qu'a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une vidéo publiée cette nuit. Volodymyr Zelensky a réagi à cette déclaration. Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. Réponse probable en fin de semaine prochaine. Ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes des États-Unis. Leur revendication, un meilleur encadrement des armes à feu dans le pays. Les dernières fusillades, dont celle dans l'école d'Uvalde, qui a causé la mort de 19 écoliers et de 2 enseignantes, ont entraîné ces mobilisations. Le président américain Joe Biden a affiché son soutien aux manifestants et demande une nouvelle fois au Congrès de faire quelque chose pour mieux contrôler les armes dans le pays.
Votre matinale week-end continue dans un instant avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot, aujourd'hui, ce sera Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Au programme, bien sûr, le premier tour des élections législatives avec ce risque d'abstention record. Nous reviendrons aussi sur l'assassinat de cette jeune collégienne à Clessé avec le témoignage exclusif pour CNews de l'avocat de la famille. Et puis nous verrons si les Européens parviendront à se mettre d'accord autour de la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. À tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
8h21, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. C'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
Face à vous ce dimanche, c'est Frédéric Durand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Frédéric, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 12 juin. Et c'est un jour particulier, encore un jour de vote, 2 mois après la présidentielle. Premier tour des élections législatives. 48 millions de Français appelés à voter pour choisir ceux qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les bureaux de vote ont ouvert depuis une vingtaine de minutes maintenant. On va rejoindre Clémence Barbier dans un bureau de vote du 10e arrondissement de Paris. On a suivi tout à l'heure les préparatifs. Est-ce qu'il y a déjà des électeurs autour de vous, Clémence ?
Effectivement, Isabelle, ils sont à peu près une trentaine depuis l'ouverture il y a 20 minutes à se déplacer. Alors vous le voyez sur les images, ils viennent, ils prennent les bulletins, ensuite ils votent dans les isoloirs. Et dans cette circonscription donc, du 11e arrondissement, il y a 13 candidats qui se présentent. Et vous l'avez dit, 2 mois après la présidentielle, l'enjeu de ce scrutin des élections législatives et la participation. Pour rappel, lors des dernières élections en 2017, le taux d'abstention avait atteint des records. Un électeur sur deux seulement s'était déplacé dans les urnes. Et aujourd'hui, les électeurs parisiens ont jusqu'à 20 heures pour se déplacer. Ils sont plus de 1673 inscrits.
Merci beaucoup Clémence Barbier avec Sandrine Baccaro. Dans les grandes villes, les bureaux de vote ferment à 20 heures, mais dans beaucoup de communes, ce sera plutôt à 18 heures. C'est une heure plus tôt que pour l'élection présidentielle. C'est la grande inconnue du jour, vous l'avez dit, la question de la participation. On en parle dans un instant avec vous, Guillaume Bigot, et avec vous, Frédéric Durand. Mais d'abord, ce reportage avec Florian Tardif et Alice Delage.
Lorsqu'on interroge les Français dans la rue...
Bonjour madame, est-ce que vous comptez voter pour les législatives ?
Oui.
Oui, absolument.
Oui, tout à fait, ouais.
Ah oui, oui, c'est important, hein. Oui, tout à fait, oui.
Si à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, les électeurs semblent bien décidés à aller voter, la réalité est plus contrastée. Les instituts de sondage craignent un record historique d'abstention cette année. 2 hypothèses sont avancées.
Depuis 2002, le passage au quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, très clairement, ces élections législatives qui viennent derrière la présidentielle intéressent moins. Ça, c'est pour l'aspect structurel. De manière plus conjoncturelle, la campagne n'a pas du tout intéressé, n'a pas du tout existé. Dans nos derniers indicateurs, 44% des Français se disent avoir été intéressés par la campagne.
Face à ce constat, les responsables politiques ont tenté jusqu'à la dernière minute de convaincre les électeurs de se rendre aux urnes, car tous savent que la mobilisation est la clé du scrutin.
Inversion du calendrier électoral, on en parle souvent ici. Une campagne qui n'a pas vraiment intéressé les Français. Est-ce que selon vous, Guillaume Bigot, ce sont les deux facteurs qui expliquent ce risque d'abstention aujourd'hui?
Oui, on pourrait même en ajouter d'autres. Le fait de ne pas pouvoir cumuler les mandats donne souvent des députés hors sol qui ne sont pas ancrés comme l'étaient, pouvaient l'être, disons, la figure du député-maire, surtout d'une ville moyenne ou d'une ville importante, qui était vraiment, à double titre, une figure de la vie politique nationale, et qui était lestée de ces deux mandats. Ensuite, on l'a dit, assez dit, je pense que le fait que le pouvoir politique se vide de sa substance, au profit du marché, au profit d'autorités administratives indépendantes, au profit des juges, au profit de l'Union européenne, etc., fait qu'évidemment, on voit moins l'enjeu politique. Enfin, de ces élections législatives. Enfin, le troisième facteur, le troisième phénomène, c'est que, évidemment, le repère orthonormé dans lequel s'inscrit la vie politique française, c'est-à-dire le repère droite-gauche, est quand même passablement brouillé. Et on a l'impression qu'on a encore des restes d'une sorte de vieux repère, j'ose à peine dire vieux monde politique, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de connotation politique dans ce que je dis.
Nous sommes, on le rappelle, en période de réserve électorale.
L'enjeu du scrutin, c'est de prendre le plus de hauteur possible, un repère droite-gauche que les plus anciens connaissaient, et un nouveau repère, disons, bloc élitaire, bloc populiste, qui est un nouveau repère qui se met en place. Mais on est dans un entre-deux, les choses ne sont pas claires. Enfin, un dernier commentaire, dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, Les hommes politiques tendent à se réjouir de l'abstention. Parce que l'abstention signifie, enfin, toute chose égale par ailleurs, l'abstention signifie que la société, d'une certaine façon, est pacifiée, consensuelle, que dans ce monde-là anglo-saxon, chacun va vaquer à ses occupations, et comme vous le savez, il y a une défiance forte à l'égard de l'État, à l'égard du pouvoir politique. Et donc, je pense qu'on peut traduire le fait que l'abstention, on pourrait en tirer, en politologue, l'idée que Elle va favoriser, disons, ceux qui sont pour le statu quo politique, ceux qui sont pour que ça ne change pas. Mais c'est pas tout à fait vrai. Souvenons-nous de ce qui s'est passé, par exemple, aux élections municipales. On a eu des maires qui étaient assez minoritaires, qui représentaient vraiment une petite partie de l'opinion publique. En raison d'une abstention massive, ils ont pris les manettes de leur ville. Alors, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou c'est pas bien, mais grosso modo, on a vu que finalement, une majorité ne se sentait plus représentée.
Vous voulez dire, Guillaume Bigot, qu'il y a une forme d'américanisation de notre conception de la politique en France?
Écoutez, c'est très clair. D'abord, quand on veut faire des primaires, quand on veut... Il y avait même l'idée de faire un discours à mi-mandat, etc. Enfin, vous voyez, il y a des choses... Enfin, on a une volonté, on s'inspire... L'Union européenne, qu'est-elle d'autre qu'une volonté, d'une certaine façon, de copier l'Amérique?
Frédéric Durand, on parle beaucoup d'abstention, mais il y a aussi la question de l'indécision qui joue dans l'abstention.
Je crois que l'indécision tardive, parce que l'indécision, elle peut se comprendre, mais maintenant, elle est de plus en plus tardive. Et je crois qu'on a là, en fait, une armée de réserves d'abstentionnistes pour l'avenir, en réalité. Parce que si on n'arrive pas à se décider, si on se décide au dernier moment, c'est qu'il n'y a pas d'appétence pour la chose politique et qu'aucun candidat ne nous tente. Parce que sinon, on sait bien à l'avance pour qui on va voter. Je voudrais revenir simplement sur la question de l'inversion du calendrier, parce que selon moi, elle change profondément la nature de la Ve République. Sure. Encore faut-il expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'avant, on votait pour un député qui, d'une certaine manière, fabriquait un président. Et donc, il y avait une certaine liberté de ces députés-là. On n'était pas dans des majorités aussi godillots qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, même s'il y avait des majorités, etc. Aujourd'hui, c'est le président, finalement, étant élu, qui crée la dynamique, qui permet aux députés d'être élus. C'est pour ça qu'Hollande, quand il avait les frondeurs, leur disait « Mais vous êtes là grâce à moi » à l'époque. Et donc, on en est venu un peu à anesthésier, à mon sens, le débat démocratique, et donc à avoir, là aussi, à rajouter du désintérêt au désintérêt. Voilà, donc je pense que cette question de l'abstention qui va être... Alors, on bat des records chaque fois, donc on s'habitue à battre des records. Alors, effectivement, l'abstention, pour moi, c'est un profond problème démocratique, même si certains politiques, en fait, peuvent s'en réjouir, parce qu'effectivement, il y a une sorte de continuité, en vérité, elle profite souvent aux sortants, parce que vous citiez tout à l'heure les élections municipales, mais la plupart des maires ont été reconduits, beaucoup, la plupart des régions, c'était énorme, toutes les régions ont été reconduites, 90%...
On peut dire que la règle, pour l'essentiel, l'abstention profite aux gens qui sont déjà en place.
Tout à fait, et 90% des départements, c'est la même chose. Donc, cette répétition ajoute encore au désintérêt. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui font que les gens... Et je pense que le premier, c'est le sentiment que les politiques ne viennent plus changer la vie des gens. Et que malgré tous les slogans, les gens ont l'impression de ne pas avancer.
Alors que rappeler, les politiques, et en particulier les députés dont on parle aujourd'hui, ont un rôle fondamental qui pèse sur le quotidien des Français, Guillaume.
Oui, enfin, quand 80% des lois qui sont adoptées sont des transpositions des directives européennes, je suis pas 100% certain, en fait.
Néanmoins, dans la structure des...
Et avec les moyens très faibles que, sous la Ve République, le législateur a de contrôler le pouvoir exécutif, parce qu'on rappelle que les deux fonctions, c'est un, le vote de la loi, et deux, le contrôle du pouvoir exécutif. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que vient de dire notre ami, parce que finalement, le président de la République, il a toujours enclenché une dynamique de majorité présidentielle. Il faut donc distinguer deux éléments. La synchronisation des calendriers électoraux, c'est-à-dire les législatives dans la foulée des présidentielles. Et là, vous avez l'effet de majorité présidentielle qui joue à bloc. Et deuxièmement, la durée du mandat. Effectivement, quand vous alignez la durée du mandat du président et la durée du mandat de l'Assemblée, on se dit logiquement que quand le peuple français a élu un président de la République, il ne va pas... quelques mois plus tard, se dédire et ne pas donner une majorité à ce président. Sauf que prudence, on verra, et ça c'est tout l'enjeu. Parce qu'en fait, on a l'impression que le président de la République est tout puissant sous la Ve République, ce n'est pas vrai. Le président de la République, il doit faire avec l'article 20 et l'article 21 de la Constitution. Autrement dit, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement et le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Autrement dit, si le président de la République se retrouve face à une Assemblée qui lui est hostile, il va avoir 2-3 problèmes pour gouverner.
Le débat se poursuit dans un instant avec votre réponse, Frédéric Durand. D'abord, les principaux titres de l'actualité. 8h30, c'est Arthur Muriot.
Europe 1.
Les bureaux de vote sont ouverts depuis 30 minutes. 48 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes. Au Havre, ville dont il est le maire, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a voté. Comme lui, vous avez jusqu'à 18h pour vous rendre dans votre bureau de vote. 20h si vous habitez dans une grande ville. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé le ministre chinois de la Défense. Cette déclaration intervient en réponse à celle du ministre américain de la Défense qui dénonçait une activité militaire provocatrice et déstabilisante de Pékin. Même si elle ne la contrôle pas, cette île de 24 millions d'habitants est encore considérée comme une province par la Chine. Direction les demi-finales du top 14 pour les Toulousains. Ils se sont imposés en barrage face à La Rochelle, 33-28. Il s'agit de la 7e victoire consécutive de Toulouse face aux Maritimes. Vendredi prochain, ils affronteront au Castres pour tenter de décrocher une place en finale.
Si Arthur, la réponse à Guillaume Bigot de Frédéric Durand.
Non, je pense que en théorie, Guillaume Bigot a raison, dans les faits, il a tort. Parce que l'article 20 dit effectivement que le gouvernement conduit la politique de la nation, c'est le président de la République qui l'a conduit. Et là où il y a encore un vice dans ce système-là, c'est que le gouvernement est responsable devant le Parlement, ce que n'est pas le président de la République.
Et donc, c'est bien pour ça que l'un gouverne et l'autre part.
Oui, mais dans les faits, ça n'est pas ça, justement. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en vérité, celui qui gouverne réellement, c'est le président de la République, mais celui qui est responsable devant le Parlement, c'est le gouvernement.
Bah, disons que la dénaturation des institutions au fur et à mesure du temps, et notamment par ce quinquennat, a fait en sorte que le président devient un Premier ministre et que le Premier ministre devient un directeur de cabinet du Premier ministre.
C'est ça.
Mais tout ça ira très bien jusqu'à ce qu'il y ait une majorité Godillot. S'il n'y a pas de majorité Godillot, parce que votre raisonnement, et j'y souscris, c'était de dire ça fonctionne comme ça lorsqu'il y a une majorité Godillot. Mais lorsqu'il n'y a pas de majorité Godillot, il y a cohabitation. On a déjà vu des cohabitations à l'époque du septennat,
ben oui.
C'est-à-dire au moment où le calendrier n'était pas le même, ce qui donnait un peu la main au président de la République pour dire je peux dissoudre. Bon, alors, avec ses risques et périls, donc je reprovoque des élections, parce que c'est le pouvoir du président de la République de dissoudre, et éventuellement, les députés ne seront pas réélus. Mais là, quand il y a une synchronicité totale entre le mandat du président et le mandat de l'Assemblée, ça va être très compliqué. Si le président n'a pas de majorité, par exemple, imaginons, c'est de la politique fiction qui n'est pas de majorité, dans ce cas, que pourra-t-il faire ? Dissoudre ? Oui, il pourra dissoudre au bout d'un an, au bout de deux ans, mais encore une fois, à ses risques et périls. Là, pour le coup, si après dissolution, il n'avait toujours pas de majorité, ce serait fini de son pouvoir.
On parlait de majorité absolue. Le président peut très bien avoir une majorité relative, Et si aucune autre formation politique n'a de majorité absolue, il peut parfaitement gouverner avec l'appui d'autres formations. C'est ce qui peut se passer.
Sauf que le grand génie de nos institutions est légué par le général de Gaulle et Régis Debray, Michel Debray, de dire d'avoir à la fois une logique présidentielle forte, donc un chef de l'État fort légitime, un peu arbitre et garant de l'unité de la nation, et en même temps une vie politique relativement dynamique avec un Premier ministre et un gouvernement qui répondait devant, etc. Là, cette fois-ci, d'une certaine façon, ce mécanisme est cassé.
Voilà un débat passionnant qui redonne un peu de peps à ces élections législatives, premier tour, alors qu'on parle du risque d'abstention. Et je rappelle qu'il y a une soirée spéciale conjointement CNews Europe 1 à partir de 19h avec Laurence Ferrari et, à partir de 19h donc, et Sonia Mabrouk à partir de 22h. Guillaume Bigot, vous voulez
ajouter quelque chose ? Oui, je vais quand même rester, même si on est évidemment dans un cadre très particulier, parce qu'en pleine élection, après un processus électoral, il faut vraiment mesurer chacun de ses propos. Mm-hmm. Je pense quand même souligner l'intérêt de l'argument de Frédéric tout à l'heure qui est fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait 40 ans maintenant que les électeurs français sont un peu comme des grands brûlés. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fait des promesses, on ne les tient pas, ça fait 40 ans que ça dure, et donc on leur dit allez voter à nouveau, c'est comme si on disait à des grands brûlés à faire des UV, quoi. Ils n'ont pas tellement envie, en fait.
On en vient à ce témoignage exclusif recueilli ce matin pour CNews, celui de l'avocat de la famille d'Emma, cette jeune collégienne assassinée il y a 3 jours à Clessé, en Saône-et-Loire. On écoute Maître Patrick Usan.
Une famille tout simplement anéantie, qui vit dorénavant dans le néant. Ils ont perdu leur raison d'être, leur raison de vivre. Ils m'ont expliqué que ils étaient assommés par les médicaments et qu'à leur réveil, ils espéraient encore que c'était un cauchemar.
Est-ce qu'il y a aussi de la colère ?
Non, c'est ce qui m'a interpellé. C'est une famille pleine de retenue, d'une très grande dignité, qui ne livre pas ses sentiments, qui veut surtout pas médiatiser leur indescriptible douleur. Ils n'ont pas de colère, pour l'instant.
On a entendu, Maître Patrick Usan, beaucoup de témoignages, mais évidemment rien de la part des proches d'Emma. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de leur fille ? Comment était-elle, cette collégienne ?
Ce qui a ajouté à l'immense douleur des parents, c'est d'avoir entendu sur certaines chaînes de télévision des personnes qui savent tout mais qui ne savent rien, dire qu'ils étaient profondément choqués et étonnés qu'Emma ait pu échapper à la vigilance de ses parents en sortant entre minuit et 4 heures du matin pour aller à la rencontre de celui qui a mis fin à ses jours. Alors qu'il s'agit de parents bienveillants, attentifs à leur enfant, lui laissant une grande liberté d'adolescente, mais veillant sur elle avec beaucoup de rigueur. Si Emma a pu échapper à leur vigilance 2 ou 3 fois pour aller à la rencontre de ce garçon, c'est à leur insu, en dépit de la bienveillante éducation qu'ils lui ont conférée, et c'est un drame que tous les parents peuvent vivre. Il est impossible de dire qu'ils ont défailli à la prudence et à l'éducation des parents.
Voilà pour ce que nous a confié Maître Patrick Usan. Et c'est important de rappeler le contexte familial. Lui qui a pu vraiment rencontrer cette famille, ce sont des mots évidemment très bouleversants, Guillaume Bigot.
Oui, je pense que par respect pour la douleur de ces familles, mais aussi après des mots aussi empreints de dignité et d'humanité, c'est difficile de faire d'un fait divers un fait de société et d'installer un débat.
Et ce n'était pas l'objet, évidemment.
Non, j'entends. Ce qui me semble sortir de ce que dit Maître Usan et rappeler aux parents qu'on est peut-être nombreux à être ce matin, c'est que effectivement, il y a quelque chose d'une aventure dans le fait d'être parent. Et cette aventure, elle est pour le meilleur et pour le pire d'une certaine façon, parce qu'on sent bien quand on a fait des enfants qu'il y a l'éducation, évidemment, il y a le cadre familial, il y a, mais il y a une part de liberté incommensurable dans l'être humain. Et cette part de liberté, on la sent. C'est ce qui rend d'ailleurs le fait d'avoir des enfants extraordinaires. Parce que vous faites des... Ben, vous faites des individus qui sont libres de leur destin. Mmh. Maintenant, vous faites le mieux possible et puis quelque chose peut vous échapper. Voilà.
Oui, bien sûr, ça nous touche tous. Et puis là, c'est tellement terrible qu'en fait, il y a une perte de sens parce que, il le disait, ses parents ne sont même pas en colère, ils sont abasourdis, anéantis. Parce que ce qui leur est arrivé n'a pas de sens. Et pour y remettre du sens, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs d'y remettre du sens, parce qu'on a tous besoin de sens dans la vie. Évidemment, quand la vie perd de son sens, on ne comprend plus ce qui se passe. Et je crois que c'est cet état-là dans lequel sont ses parents. Et puis que, évidemment, la société tout entière peut se reconnaître dans cette détresse, parce qu'on redoute tous pour nos enfants qu'il se passe de telles choses. Donc voilà, et puis je pense qu'il a bien fait de préciser aussi que c'était pas des parents qui n'avaient pas de vigilance vis-à-vis de l'enfant, parce que les procès aujourd'hui sont tellement rapidement faits que je pense que c'était
avec beaucoup d'indécence.
De l'indécence, et puis chacun est responsable, et on sait très bien comment ça peut se passer avec des enfants et des adolescents. Donc je pense que cette remise au point, au moins, était utile aussi.
Nous en venons maintenant à la guerre en Ukraine. Et cette question, l'Ukraine va-t-elle intégrer un jour l'Union européenne? Question récurrente, Volodymyr Zelensky veut continuer à y croire. Il l'a redit hier à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui était en visite surprise à Kiev et qui demande un engagement concret. En tout cas, c'est Volodymyr Zelensky qui demande cet engagement concret avant la fin du mois. Sauf que les 27 sont très divisés. On en débat juste après avoir écouté ensemble le président ukrainien.
Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. Et que doit-il encore se passer en Europe pour faire comprendre aux sceptiques que le fait de maintenir l'Ukraine en dehors de l'Union européenne joue contre l'Europe ?
Guillaume Bigot, est-ce qu'il a raison d'y croire, Volodymyr Zelensky, même si on a déjà évoqué beaucoup de fois ce sujet, il a tort ?
Non, je pense que c'est un double contresens, je pense, mais on peut lui pardonner parce que, vu la situation où il se trouve, qui est une situation gravissime où des centaines, peut-être même des milliers de ses compatriotes meurent tous les jours, et la responsabilité qui lui est tombée sur le dos, voilà. Mais le double contresens est très simple à comprendre. Pourquoi se battent les Ukrainiens ? Ils se battent pour ne pas faire partie d'un empire, pour que leurs décisions ne soient pas dictées par plus puissants qu'eux. Alors, s'ils rentrent dans l'Union européenne, il faut peut-être dire à M. Zelensky, puisqu'on lui a donné des documents très épais, comme ça, à remplir, pour adhérer à un bulletin d'adhésion à l'Union européenne. Mais vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance. Vous avez souvent un petit nota bene en bas. Ben, le nota bene, c'est que l'Union européenne, en fait, c'était la carpette des États-Unis. C'est la carpette géopolitique des États-Unis. Donc, en fait, il ne veut pas obéir aux Russes, et on le comprend très bien. Mais pourquoi s'apprête-t-il à rentrer dans un club où il fera exactement ce que les États-Unis diront de faire ? Aller à droite, aller à gauche, etc. Ça, c'est incompréhensible. Deux, il faut bien comprendre, faire comprendre à M. Zelensky ce que disait Hubert Védrine hier sur notre antenne, c'est-à-dire que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? Fondamentalement, c'est une espèce de parenthèse de bisounours dans un monde de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est quoi ? C'est malheureusement le monde de la guerre, le fait que le monde reste dangereux avec des gens agressifs. C'est un autre ancien ministre des Affaires étrangères, cette fois-ci allemand, qui a pris conscience de ça. Il a dit, on a cru, nous, les Européens, et notamment les Allemands, que nous pouvions, nous, les herbivores, vivre dans un monde de carnivores. Très fort comme expression. Eh bien, l'Union européenne, c'est ça. C'est l'illusion que les herbivores... Alors, les herbivores ne sont pas tout seuls, parce que je le répète, ils sont protégés par un carnivore américain. Donc, ils pensent... Eux, ils viennent de faire l'expérience, les Ukrainiens, qu'en fait, parfois, malheureusement, il faut prendre les armes pour défendre sa frontière et défendre son pays. Et ils sont prêts à rentrer dans un club qui a renoncé à faire ça. Il faut vraiment qu'ils réfléchissent à deux fois.
Double contresens, très imagé.
Non, mais je pense que les herbivores vont devoir gagner à un moment ou à un autre.
Parce les herbivores ne gagnent jamais contre les carnivores.
Les herbivores vont devoir gagner, sinon, vu les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est la fin de la planète, tout simplement.
C'est les Américains qui vont gagner.
Juste,
parler de la menace nucléaire, évidemment.
Oui, bien sûr. Et à un moment donné, il faudra que ce soit la paix qui l'emporte, parce que sinon, on va au-devant de graves déconvenues. Deux choses. Je pense que d'abord, il y a ce qu'on appelle Europe en général. En vérité, c'est une Europe économique. Lorsqu'on parle d'Europe, on parle d'Union européenne, qui s'est construite sur sur l'économie,
ça,
d'ailleurs.
Ça, c'est l'aspect bisounours.
C'est, voilà. Non, mais c'est la...
Si, si. Non, c'est l'idée que le doux commerce allait empêcher les guerres.
Ah oui, non, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas eu d'effet du tout non plus, Guillaume Bigot. Donc, moi, j'y crois pas complètement.
Confère Taïwan et confère l'Ukraine et confère le Mali et confère l'Irak et confère...
J'y crois pas complètement, mais je crois que ça a eu malgré tout un effet. Ah bon, et je pense qu'on devra créer aussi peut-être demain, pour ce genre de cas-là, une sorte d'Europe culturelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, personne ne respecte les critères européens. Aucun pays d'Europe ne respecte les critères européens. Les 3% de déficit public, 60% de dette publique, ça n'existe pas et ça n'existe plus depuis le Covid, encore plus. Mais c'était déjà le cas avant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pendant qu'on nous occupe avec des prétendues théories du grand remplacement, dans la vraie vie, il se passe des choses. Et dans la vraie vie, il se passe quoi ? Il se passe que des régimes dits illibéraux, que moi j'appelle des régimes capitalistes nationalistes, veulent contrôler le monde. C'est ça qui est en train de se passer. Et que ce soit l'Ukraine ou que ce soit Taïwan demain, parce qu'on voit comment les Chinois, là, aujourd'hui...
Mettent la pression, effectivement.
Mettent la pression. Voilà. Ils font le ménage à leur porte, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ils commencent par faire le ménage chez eux, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, je pense... Mais il y a quelques éléments là qui sont de nature à nous inquiéter pour l'avenir.
Oui, les seuls à pouvoir se défendre sont les Britanniques, les Américains et un peu les Français, qui font quand même... croit depuis très longtemps maintenant qu'un jour viendra, la Belle au bois dormant va se réveiller et les autres pays européens vont décider de se défendre par eux-mêmes. Non, ils ne se défendront pas par eux-mêmes, puisque l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, tous ceux qui sont les plus en pointe contre la Russie, sont les plus alignés à l'égard des États-Unis. Donc c'est le paradoxe est là, finalement. Je pense, pour ma part, mais peut-être que je me trompe, qu'un pays qui est capable de se défendre lui-même. Et d'une certaine façon, c'est la démonstration qu'a apportée l'Ukraine. L'Ukraine a probablement dissuadé la Chine de reprendre par la force Taïwan. Parce que finalement, c'est un prix à payer. Si les Chinois débarquent à Taïwan... inévitablement, ils écraseront Taïwan. Mais à quel prix ? À quel prix ? Un pays qui est très... En fait, l'erreur de base de l'Europe, elle est double. Elle est, un, de remplacer des nations par des aéroports ou des traités de libre-échange. Ça, c'est n'importe quoi. Et de penser qu'en faisant ça, c'est le doux commerce de Montesquieu, en commerçant avec la Russie, comme le pensait M. Fillon ou comme le pensait M. Schröder, on allait transformer la Russie en social-démocratie. Ben, c'est raté. Et en étant gentil avec les Chinois, en les faisant rentrer dans l'OMC, comme on l'a fait à la fin des années 2000, ça allait transformer la Chine en état de droit, en pays très gentil, très mignon, etc. Mais c'est pas du tout ce qui s'est produit. Le monde reste extrêmement dangereux. Donc un pays qui est capable de se défendre lui-même, qui est lucide, bah, il n'a absolument pas besoin d'avoir un pays de 300 ou 400 millions d'habitants. Ça n'a aucun sens.
Très courte pause, 9h moins le quart, les titres, Arthur Muriot.
Dans l'affaire de l'adolescente tuée à Clessay en Saône-et-Loire, l'avocat de la famille, maître Patrick Usan, était l'invité de CNews. Il a déclaré que ses clients étaient anéantis et vivaient dans le néant depuis la disparition d'Emma. Mais sans colère, l'avocat, qui a annoncé qu'il se constituerait partie civile demain, a indiqué qu'il sera la douleur incarnée, la parole brisée et désormais muette à jamais d'une enfant. Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Ukrainiens dans une vidéo publiée cette nuit. Le président a tenu au courant son peuple de l'avancée des combats. Il annonce que l'armée ukrainienne libère progressivement les régions de Kherson et Zaporijjia au sud du pays. Il ajoute que dans l'Est, à Severodonetsk, des combats de Russes se poursuivent. Si les Russes parviennent à prendre cette ville, elle leur ouvrirait directement la route vers la localité de Kramatorsk. Charles Leclerc brille en qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il signe la pole position au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Pérez. Le Monégasque est incontestablement le maître des qualifications de cette saison. La course de F1 est à suivre aujourd'hui en direct dès 13h sur Canal+.
Merci Arthur. Il est 9h moins le quart, je vous le disais tout à l'heure. Ça fait 45 minutes maintenant que les bureaux de vote ont ouvert pour ce premier tour des élections législatives, avec la question de l'abstention et puis la préoccupation majeure des Français en ce moment, c'est celle du pouvoir d'achat. Le coût de la vie pèse quotidiennement sur les choix des Français. C'est aussi bien sûr le cas pour les vacances. Les trois quarts d'entre eux ont choisi de rester en France cet été et ils sont nombreux à plébisciter le camping car les prix peuvent être très attractifs. On en parle juste après ce reportage en Vendée à une dizaine de kilomètres de la plage, signé Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
C'est l'heure des derniers préparatifs au camping municipal 2 étoiles de Soulan. L'ouverture, c'est dans une semaine. Et cette année, les 80 emplacements sont déjà pris d'assaut.
On a plus de 60% aujourd'hui, au jour où je vous parle, de réservations, alors que les années habituelles, à partir du 15 juin, ça part tout doucement jusqu'à début juillet. Je pense qu'aujourd'hui, le coût de la vie, fait le coût de l'énergie, etc., fait qu'aujourd'hui, les gens vont certainement se replier en rétro-littoral, plus que sur le littoral où les prix à la journée ne sont pas les mêmes.
À 10 km des plages vendéennes, le prix est imbattable, 8,40 euros par jour l'emplacement nu. Ici, pas de mobile home, pas de piscine, pas d'animation. En 20 ans, le tarif a augmenté de moins d'un euro pour ne pas plumer le touriste au camping comme dans les commerces de la commune.
Proche de la côte et puis avec des tarifs très attractifs. Sans le bruit, sans l'effervescence des tourismes. Pour ceux qui veulent trouver la paix, c'est à Soulan qu'il faut venir.
À ce prix-là, la commune offre même le pot des campeurs chaque premier lundi du mois. Faites vite, c'est déjà complet du 1er au 15 août.
Elle est là, la réalité d'une grande majorité de Français, Guillaume Bigot.
Bon, elle était là avant cette double crise, la crise Covid, puis la crise du pouvoir d'achat déclenchée par la guerre en Ukraine, parce que rappelons que la guerre en Ukraine, c'est un mécanisme en chaîne qui va augmenter les prix d'énormément de matières premières et à commencer par les prix d'énergie. Donc c'était déjà une problématique majeure. Là, évidemment, ça devient très, très, très tendu. Ce pouvoir d'achat, en fait, c'est vraiment, pour beaucoup de nos compatriotes, la lutte contre la pauvreté. En fait, il faut appeler un chat. C'est un euphémisme, cette histoire de pouvoir d'achat. Hein, un peu comme dans les entreprises, vous dites plan de sauvegarde de l'emploi, ça veut dire licenciement. Voilà. Bon, en fait, c'est la pauvreté. Donc, on a, pour certains d'entre nous, effectivement, remarqué que notre pouvoir d'achat a été rogné, c'est vrai, mais pour malheureusement pas mal de nos compatriotes, c'est plus que le pouvoir d'achat rogné, c'est qu'on était juste au niveau de l'eau, et là, le niveau de l'eau commence à dangereusement monter.
Durant,
oui, je crois que c'est un phénomène. En vérité, c'est un phénomène qui a démarré à la fin des années 80, où on a vu se développer un sous-marché. C'est à ce moment-là qu'a ouvert Aldi, qu'a ouvert Lidl, etc. Exactement. C'est à ce moment-là, y compris que lorsque Renault rachète Lada et qu'il comptait le mettre que sur les marchés, le marché des pays pauvres, ils le mettent en France, c'est un succès extraordinaire. Autant de signes qui auraient dû nous faire voir que effectivement, il y avait un déclassement qui était à l'œuvre. Et puis, on sait que depuis la libération, grosso modo, on avait une classe centrale et les classes populaires sont venues s'agglomérer pour créer une grande classe moyenne. Aujourd'hui, c'est par grappe entière que ça tombe de la grappe centrale vers ce qu'on peut appeler effectivement une forme de pauvreté. Ajoutons à cela que, je dirais, les plus pauvres ont l'habitude de ne pas partir en vacances ou que quelques jours. Mais chez ceux qui partaient 3 semaines en vacances, qui vont partir plus qu'une semaine et sur des tas de choses comme ça, ils ne vont plus pouvoir avoir leur niveau de vie habituel. Là, il y a une grande amertume qui risque de se déclencher. Et je pense qu'un des défis de Macron... du chef de l'État, ça va être de comment on va arriver à satisfaire ce déclassement, ces déclassés sociaux qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui.
Guillaume Bigot.
On fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, la politique qui a été menée pendant très très longtemps, c'est une politique qui a masqué ce phénomène d'appauvrissement. Ça l'a masqué et ça a maintenu d'une certaine façon artificiellement le niveau de vie en France. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'a fait la politique de l'Union européenne, de toujours plus de libre-échange, etc. C'est assez simple. Elle a détruit des emplois, c'est vrai, mais elle a simultanément fait baisser le prix d'énormément de biens et de marchandises. En fait, et donc c'est tout à fait cohérent avec ce que dit Frédéric, c'est-à-dire que c'est le moment où on a ouvert les Lidl, etc., toutes ces enseignes
à bas coût. Un peu discount.
Voilà.
Et à bas prix.
Et ce n'est pas que dans les enseignes à bas coût, d'ailleurs, que vous aviez à un moment 70-80% de babioles fabriquées en Chine ou de produits à bas coût, y compris des produits agroalimentaires fabriqués dans d'autres pays, peut-être parfois transformés ici et marketés ici, mais en tout cas fabriqués là-bas. Et donc, vous voyez, c'était une sorte de méthadone, c'était une sorte de moyen de maintenir à niveau... Voilà. Maintenant, une fois qu'on va couper... la morphine, une fois qu'on va couper la méthadone, on va s'apercevoir que les génies qui nous dirigent depuis 40 ans, en fait, ils ont massivement appauvri le pays sous prétexte d'enrichir la Chine.
Frédéric Durand, un mot ?
Oui, ben, c'est la désindustrialisation du pays qui est notre grand drame, en vérité, selon moi. Parce que, en vérité, vous savez, il y a ces fameuses, je ne sais plus quel grand patron disait, il faut faire des sociétés sans usine maintenant.
Churuc, Serge Churuc.
C'est ça, exactement. Et donc, on a cru à un moment donné qu'on pouvait vivre, nous, les pays occidentaux, avec l'Asie comme étant les ateliers du monde, et nous, nous étions les cerveaux. Sauf qu'aujourd'hui, l'Asie et la Chine, notamment, détiennent toute la chaîne, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des ingénieurs, ils ont aussi
les cerveaux.
Oui. Ils se sont appropriés un certain nombre de savoir-faire que nous avons perdu. Et donc, je pense que là, le travail de réindustrialisation du pays, il est incontournable si on veut sortir de cette ornière.
Ah bah ça, c'est toujours des grands dirigeants d'entreprise qui parlent d'usines sans travailleurs, c'est des dirigeants sans cerveau, oui, ça c'est sûr. L'autre chose, c'est qu'on voit quand même comment les problèmes sont interconnectés les uns dans les autres. C'est-à-dire que, finalement, la puissance militaire, c'est toujours lié à la puissance technologique, qui est toujours lié à la puissance militaire, qui est toujours lié à la puissance économique. Vous n'avez jamais de grande puissance économique qui n'est pas aussi une puissance technologique et militaire. Et ce qui est en train de se jouer en Ukraine, c'est ça, de savoir si demain, les États-Unis sont toujours la première puissance.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Frédéric Durand, Guillaume Bigot. Merci, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Stéphane Place avec Frédéric Taddeï. Très bon dimanche. À vous.